Les enfants vont avoir un géniteur qui va donner son patrimoine génétique pour les constituer, mais on s'organise pour qu'ils ne puissent pas le connaître, en tout cas pour qu'ils ne puissent pas avoir avec lui une relation de père. Et pour ma part, je suis assez effaré d'entendre des gens qui nous expliquent que c'est beaucoup mieux comme ça, qu'avoir un père, une mère, c'est pas suffisant, alors que, au contraire, il y a un immense progrès de civilisation. Lorsque le père est bien celui qui nous a engendrés, la mère est bien celle qui nous a engendrés, et que l'un et l'autre nous ont engendrés parce qu'ils se sont promis l'un à l'autre et qu'ils s'efforcent chaque jour de créer un espace d'amour. Alors après, il y a des tas de situations dans lesquelles quelqu'un n'est pas élevé par son père ou par sa mère biologique et par des parents qu'il aime beaucoup et qu'il peut beaucoup aimer. Mais c'est du rattrapage de situation. Aujourd'hui, on entérine cela et on crée des situations compliquées pour les enfants qui vont venir.
On parle d'un recours à la médecine pour des personnes sans pathologie. Que penser de cette transformation de la vocation médicale?
La médecine est faite pour soigner et si possible guérir. Là, on transforme la médecine en un prestataire, disons, de service. Elle vient répondre à des frustrations, à des douleurs qui sont réelles, hein. Mais on est en train d'organiser, d'utiliser la technique médicale, non pas pour guérir, mais pour venir répondre à cette douleur. Et la collectivité publique se présente comme capable de répondre à des souffrances, à des douleurs et à des frustrations grâce à la technique médicale et à la technique juridique, c'est-à-dire au bricolage juridique qu'on est capable de faire pour que tout ait l'air de bien se passer. Mais c'est une course sans fin. C'est pour ça d'ailleurs parce que personnellement, je doute que nos sociétés aient la capacité de s'arrêter et que après la PMA, on aura forcément la GPA, quelles que soient les bonnes intentions de ceux qui disent le contraire. Donc le drame, c'est de sortir la médecine de son rôle et de consacrer des moyens d'intelligence et des moyens financiers à cette transformation de la médecine, alors qu'il y a toujours des tas de gens à soigner. Le seul point positif du débat qui a émergé, quand même, c'est une sorte de volonté d'un certain nombre de parlementaires que notre pays s'engage fermement dans la recherche sur l'infertilité. Ben, il est temps, parce que c'est une grande partie du problème.
Cette loi met donc au centre la volonté de l'individu et révèle un modèle de société égocentrée. Quel message spécifique les chrétiens peuvent apporter?
Nous avons déjà averti un peu le rôle des prophètes de l'Ancien Testament qui avertissent qu'on est en train de prendre un mauvais chemin. La foi nous éclaire, c'est-à-dire qu'elle nous libère de ce qui nous aveugle. Et ce qui aveugle, c'est une certaine fascination pour la technique, c'est la peur de la solitude, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas aimer. Pourquoi est-ce qu'on veut comme ça un enfant? Parce qu'avoir un enfant, c'est l'assurance que vous allez être tiré hors de vous-même, que vous allez être appelé à un amour inconditionnel. Donc il y a quelque chose de très beau dans cela. Mais seulement, ça ne justifie pas tous les bricolages qu'on est en train de faire, parce que cette capacité d'aimer, elle pourrait s'exprimer autrement, ce qui suppose de la part de nos sociétés de l'attention aux personnes qui sont seules, aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, y compris aux personnes homosexuelles qui n'ont pas d'enfants, et il y aura toujours, heureusement, des personnes homosexuelles qui seront capables de choisir de ne pas avoir d'enfants, parce qu'elles sont conscientes qu'on ne peut pas bricoler comme cela avec la vie, mais qui mettront à la disposition de la société leur énergie, leur générosité, leur créativité. Voilà, donc il faut, nous chrétiens, nous pouvons indiquer que d'autres voies sont possibles pour vivre que de chercher toujours à combler nos désirs les uns derrière les autres.
Quel modèle de bioéthique défendez-vous?
L'union de la technique médicale et de la réflexion éthique pourrait développer une attention aux personnes avec un rapport à la technique qui soit plus maîtrisé, c'est-à-dire sans fascination et sans mettre tous nos rêves dans la technique, en essayant de développer une attention à la personne malade, à l'écoute de ce qu'elle a à dire, un accompagnement plus fin, et non pas toujours chercher une solution technique à tous les problèmes, et si possible au moindre coût, qui est la direction qu'on est en train de prendre.
On peut quand même avoir le sentiment que tout est déjà joué d'avance. Que répondez-vous à ceux qui sont tentés par le défaitisme?
Il va y avoir un débat parlementaire, donc il ne faut jamais négliger la possibilité d'éclairer nos parlementaires, qui sont souvent des gens de bien, dont une partie ne savent pas très bien de quoi il s'agit, ne comprennent pas bien les enjeux, même techniques, hein, parce qu'ils ont beaucoup de sujets en tête. D'autre part, à travers le parlementaire, en fait, il s'agit d'éclairer l'ensemble de nos concitoyens, parce que certains promoteurs de la loi se disent c'est un progrès, il faut transformer la société, il faut changer nos modèles familiaux. Mais une grande partie de nos concitoyens n'entre pas tout à fait là-dedans en réalité. Mais en revanche, se laisse soit fasciner par des promesses qui en plus sont faites par des médecins, qui sont des gens de bien et à qui on fait confiance. Donc nous devons toujours éclairer nos concitoyens pour qu'ils puissent faire dans leur vie concrète les meilleurs choix. Parce que quelle que soit la loi qui soit votée, quel que soit le cadre juridique, de toute façon, tout dépendra du choix individuel que chacun fera. on peut ne pas recourir à la PMA, on n'est pas obligé d'y recourir quand même. Donc nous aurons toujours à éclairer nos concitoyens pour que nous apprenions toujours mieux à assumer les grandeurs et les limites de notre corps.